pour cette invitation.
Vous êtes en direct depuis le Canada. Vous êtes originaire de Guyane. Depuis combien d'années vivez-vous au Canada?
Ça fait 20 ans maintenant, ça fait 20 ans que je suis au Canada.
En 20 ans, vous y avez étudié, travaillé et vous vous êtes installé, on peut dire.
Durable. J'ai posé mes valises, c'était pas clair du tout au début quand je suis partie très jeune, à l'âge de 15 ans. Je suis partie à l'aventure avec l'envie de goûter à un ailleurs, avec la certitude que je rentrerais, m'installer chez moi, travailler chez moi. Puis les années ont passé, les expériences se sont multipliées, j'ai quitté le Canada, je suis allée au Brésil, ensuite en France, puis je suis revenue. Voilà, maintenant je suis installée ici et puis il y a quelques années, j'ai fini par me dire, bon, il faut prendre acte du fait que j'ai fait des choix qui me conduisent à être durablement ici, mais définitivement, ça, c'est une autre affaire.
On va parler tout à l'heure d'une thèse que vous avez soutenue sur le centre spatial, mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous brosser ces années d'études que vous avez effectuées au Canada?
Oui, donc comme je le disais, enfin, je suis arrivée très jeune. Donc j'ai quitté donc la Guyane alors que je terminais ma seconde. Donc j'ai fait mon lycée, la fin de mon lycée à Montréal. Ensuite j'ai fait un premier cycle en économie et politique à l'Université de Montréal. Et c'est suite à cela en fait que j'ai eu envie de repartir à l'aventure. J'ai donc d'abord fait un séjour de 6 mois au Brésil parce que je voulais. C'était un moment d'effervescence politique en l'Amérique du Sud à ce moment-là. L'élection récente du président Lula au Brésil. Et plus largement, il y avait plusieurs mouvements de gauche qui étaient au pouvoir. Donc j'ai eu envie d'aller voir de plus près ce territoire collé à celui de la Guyane, mais que je n'avais jamais visité, sur lequel je n'avais pas eu d'intérêt avant particulier. Et donc, voilà, j'ai passé 6 mois à faire de la recherche à l'université de São Paulo. Et puis ensuite, j'ai fait ma maîtrise en France, mon master en recherche en France. Et ce n'est qu'après que je suis repartie au Canada, où j'ai fait mon doctorat. Des études avant cela en gestion et développement durable aussi, mais par la suite une thèse et puis maintenant voilà, je suis professeure agrégée à l'Université Laval, donc dans la ville de Québec.
Quel beau parcours. Alors, vous avez soutenu une
Merci.
thèse sur la base spatiale. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en exergue à travers cette thèse?
Ben alors, j'aimerais commencer peut-être par dire que mon intérêt pour l'activité spatiale, je pense qu'il est partagé par beaucoup de Guyanaises et Guyanais. Et en même temps, un intérêt avec beaucoup d'ambivalence dans le sentiment. Parce que l'historique de la base spatiale, on ne va pas se le cacher, a été très difficile. L'installation du centre spatial s'est faite en Guyane en 64, en 1964, dans des conditions très difficiles avec des expropriations. Et puis un rejet de la part de la population guyanaise. Et donc, c'est quelque chose qui est passé dans la mémoire collective, qui s'est installé et qui crée une espèce de distance de beaucoup de Guyanais vis-à-vis de cette activité-là, qui pourtant est une activité majeure, qui suscite de l'intérêt partout dans le monde, qui est vraiment une activité de pointe et qui gagnerait à être davantage connue. Et donc, c'est à partir de cela que je me suis dit, tiens, j'ai envie, pour moi qui veux travailler en responsabilité sociale des entreprises, j'ai voulu me pencher sur cette historique-là, comprendre comment ça évolue. Et j'ai eu envie de me laisser surprendre aussi par mes découvertes, par mes recherches. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai qu'on fasse l'effort de comprendre ces biais, ces préjugés, de les déconstruire et de les reconstruire ensuite, de reconstruire ensuite sa compréhension du phénomène. Et c'est ce que je me suis attachée à faire. Ce sont des années, hein, un doctorat, ça, c'est une aventure de plusieurs années, c'est un engagement entier. C'est aussi beaucoup de collaboration parce que il a fallu que je parle à beaucoup de gens. J'ai parlé à cinquantaine de personnes autour de l'activité spatiale pour essayer de comprendre, de saisir un peu les différentes perspectives sur cette histoire et sur son présent aussi sur le présent de cette activité-là. Je suis allée fouiller dans des archives aussi pour mieux saisir un peu ce qui s'est passé dans l'histoire, dans le passé. Et donc, ça a été extrêmement riche comme expérience. Alors, ça, c'était une longue introduction pour répondre enfin à votre question, qui est de savoir ce que j'ai trouvé,
Ouais.
ce que j'ai découvert, ou en tout cas ce qui m'est apparu comme quelque chose de très riche et qui a en fait beaucoup intéressé à l'échelle internationale, parce que l'un de mes articles a reçu le Best Paper Award à une conférence, la conférence la plus importante, la plus prestigieuse en management. Et c'est un article dans lequel je parlais d'une forme de résistance tout en silence, qu'est la créolisation. Et donc, au fil de mes recherches, j'ai été assez frappée par cette distance justement de la société, de façon générale, en tout cas particulièrement de certaines portions de la société, vis-à-vis de cette activité-là. Et puis également, je veux dire, j'ai été confrontée aux tentatives, je pense, répétées de certaines personnes du centre social de créer des liens avec la population, avec la société, de recréer de la confiance et en faisant face à toutes sortes d'obstacles. Et l'idée, c'était d'essayer de comprendre quelle était l'origine de ces difficultés-là et de ces voilà de ces difficultés à créer une activité qui puisse pleinement être ancrée sur le territoire, avoir les retombées que l'on puisse attendre d'une activité d'une telle envergure et être complètement réapproprié localement. Alors évidemment, il n'y a pas que la question de cette histoire, hein, c'est l'activité spatiale, c'est une activité stratégique avec, je veux dire, c'est des enjeux de sécurité, donc il y a des enjeux politiques très très forts, hein. Au-delà aussi de l'histoire, il y a aussi d'autres préoccupations, d'autres raisons qui font que ça reste une certaine enclave à certains égards, mais il y a tout ça en fait que j'ai essayé de comprendre.
Or, vous parlez de la base spatiale, vous n'êtes pas sans savoir que les Guyanais manifestent souvent, en tout cas, mais à chaque fois qu'il y a des soulèvements sociaux, il y a la base spatiale qui occupe une place très importante, et d'aucuns pensent que les retombées pour le territoire ne sont pas suffisantes. Que répondez-vous à cela, surtout sur le plan économique? En termes d'emploi, en termes d'infrastructures, etc.
Ben, je commencerai par vous dire que effectivement, ça c'est quelque chose qui frappe l'esprit quand on regarde ce qui se passe en Guyane à chaque fois, comme vous dites qu'il y a des soulèvements, des mobilisations sociales, ou même que des personnes interrogent le rôle de la France et l'implication, l'investissement de la France vis-à-vis du territoire de la Guyane. Le centre spatial occupe une place symbolique très forte. Elle représente dans l'esprit de, on va dire, dans l'imaginaire collectif, ce qui ne va pas sur le territoire d'une certaine manière, parce que effectivement, on voit bien qu'on est capable, sur le territoire comme celui de la Guyane, d'être au centre d'une activité d'excellence, de pointe, qui, à l'échelle internationale, représente ce qu'on est capable, ce que l'être humain, la science sont capables de produire de plus fin, de plus avancé, de plus visionnaire. Donc on a ça, et puis en même temps on a un territoire qui est en grande difficulté à tous égards, donc sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la santé. Donc un territoire où les indicateurs sont au rouge depuis très longtemps, je n'ai connu que cela en fait, moi, une Guyane en difficulté. Et en même temps avec ce symbole de réussite, de capacité à mobiliser des ressources, à aller au-delà de enfin, à se dépasser. Et donc, c'est normal que dans des moments difficiles, les gens se tournent vers cela en disant, mais il y a une anomalie. Et je crois que c'est très sain comme raisonnement. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, il y a d'autres questions qui doivent se poser. Évidemment que de manière générale, et ce n'est pas propre au centre spatial, les activités économiques, les entreprises, quelle que soit leur nature, ont énormément de mal à contribuer de manière significative à la prospérité, au bien-être de la société en général, si elles ne sont pas sous pression. Je veux dire, c'est une réalité malheureusement qu'on observe partout, dans tous les domaines d'activité. Et je dirais que le centre spatial n'y fait pas exception. Maintenant, en même temps,
Ça
il y
pourrait
a un certain nombre de
se corriger.
tentatives qui ont été faites. Toujours être corrigé, évidemment. Ça demande en partie, entre autres choses, qu'on soit capable d'établir clairement ce qui peut être corrigé. Donc, il faut être capable de faire des recommandations, il faut être capable de comprendre ce qui se passe, ce qui se fait de mieux, de comparer. Et je crois que cet exercice-là n'est pas toujours fait, notamment dans le milieu politique, mais pas que. Je crois que cet effort-là n'est pas toujours fait. Et il est évident que si on n'a pas d'exigences très claires, malheureusement, ça ne viendra pas naturellement. Ça ne viendra pas naturellement. Et moi, ce que j'étudie de manière générale dans mes travaux, au centre spatial ou ailleurs, ce sont les rapports de force justement qu'on établit qui permettent de faire en sorte que des entreprises se comportent et aient des pratiques socialement responsables vis-à-vis du territoire dans lequel elles opèrent, vis-à-vis des différentes parties prenantes qu'elles affectent. Et ça ne se fait jamais, jamais sans rapport de force.
Et ces rapports de force, peut-être, ne sont inexistants, ou en tout cas ne sont pas suffisamment, on va dire, il n'y a pas d'équilibre au-delà de ce, oui, peut-être l'absence de ce rapport de force explique ces différences de traitement que l'on a et c'est peut-être ces retombées qui ne sont pas à qui correspondent pas à ce que l'on attend et ce qu'on devrait au fait attendre d'une entreprise comme le Centre spatial guyanais peut-être.
Oui, c'est sûr que c'est pas évident parce que par ailleurs, je répète, c'est une activité stratégique française et européenne. Donc, il est évident que le rapport de force, en partant, il n'est pas favorable à la Guyane. Néanmoins, je suis convaincue que il y a possibilité de réfléchir sérieusement à la manière dont on peut créer des conditions qui soient, enfin des retombées qui soient structurantes. Parce que la question de la dépendance aussi n'est jamais bonne. Je ne crois pas que la Guyane gagnerait à re-renforcer sa dépendance vis-à-vis de l'activité spatiale. Parce que ça a été, à un moment donné, 40% du PIB de la Guyane. C'est tombé à autour de 15%. Je ne crois pas que la Guyane a intérêt à se diversifier. La Guyane a intérêt à créer un écosystème d'entreprises, d'activités économiques génératrices d'emplois, innovantes et qui ne dépendent pas uniquement du spatial. Néanmoins, le spatial est là, il est là pour durer, ça fait 60 ans qu'il est là et il est tout à fait légitime d'avoir des attentes élevées à son égard. Mais je ne crois pas la Guyane. Parce qu'en plus, par ailleurs, je veux dire, l'activité spatiale est fortement dépendante des décisions des États et pas que de la France. Hein. Donc, je veux dire, et puis elle est sous pression. Il y a des acteurs très innovants à l'échelle mondiale, comme SpaceX, par exemple, qui talonnent le spatial. Donc, je veux dire, ce n'est jamais assuré comme revenu, comme activité à long terme, parce qu'il y a également des décisions politiques. Mais tant que l'activité spatiale est là, oui, il m'apparaît évident que, il faut être en capacité de réfléchir collectivement à la manière dont il peut mieux contribuer aux besoins de la Guyane, mais sans évidemment sans qu'il se substitue à l'État, parce que ce n'est pas non plus la voie à suivre. Ce n'est pas la voie à suivre. L'État a son rôle à jouer. Et les collectivités locales ont leur rôle à jouer également. Le pouvoir politique, il est partagé. Et donc, il est important que chacun et chacune joue son rôle.
Très bien, vous êtes très nombreux à regarder ce live. Je vous en remercie. N'hésitez pas à la partager. On salue au passage TT Mathieu, également Amala Sacco. Alors, Nolioué Delannon, vous êtes très impliqué dans la vie sociale, civile, surtout au Canada. On vous a senti à un certain moment proche également du parti politique Wallawari. On n'est pas sans savoir que vous êtes la fille de Madame Christiane Taubira, qui a été députée, garde des Sceaux. Alors justement, comment, je pense que c'est une question qu'on a dû vous poser maintes fois, comment trouver sa place, comment exister quand on a une mère qui est aussi influente, hein, qui est aussi engagée dans la vie politique en France et au niveau international également, puisqu'elle est invitée un peu partout, présenter des conférences, dans le cadre des conférences notamment.
Ah, oh, vaste question.
Mais qu'on
Vaste
doit vous
question.
poser souvent,
Écoutez,
j'imagine.
oui, on me la pose très souvent, effectivement. Je vous dirais que c'est une immense fierté pour moi, en fait. Je veux dire, le travail, l'engagement que ma mère a eu et continue d'avoir, la voix qu'elle porte, et comme vous avez raison de le dire, ça dépasse la Guyane, ça dépasse la France, c'est à l'échelle internationale. Maintenant, moi, j'ai eu ma propre trajectoire, et puis bon, je dirais que j'ai eu besoin de me construire moi-même pour gagner confiance en moi, croire en ma propre légitimité, etc. Bon, et puis, donc, je suis très fière. Maintenant, moi aussi, j'ai choisi mes combats, j'ai choisi mes engagements, j'ai choisi ma voie, donc j'ai choisi le monde académique, donc la recherche, mais une recherche engagée. Donc moi, je suis complètement, j'assume pleinement mon statut de chercheuse qui choisit des sujets de recherche qui m'interpellent et qui me donnent envie non seulement d'en savoir davantage, mais de participer à une réflexion qui permette une amélioration, donc du progrès social.
Donc
Et donc, voilà, donc pareil, oui?
cette proximité avec
Et donc,
Wawari, ça fait partie du passé?
oui, tout à fait. Un passé que j'assume pleinement. J'ai été en fait membre fondatrice de la section jeune de Wallawari. Je me suis engagée au départ. Je me suis engagée pour soutenir mon frère qui se lançait en politique. Mon frère qui est décédé il y a 2 ans. Et ça a été. Ça a été le moteur et donc lui avec d'autres jeunes à l'époque, on avait autour de 25 ans, on s'est engagé parce que évidemment le paysage politique ne nous convenait pas, ne nous plaisait pas. Et donc on a fondé cette section jeune, Génération Wallawari, que j'ai par la suite présidée pendant 2 mandats. Puis ensuite, je me suis retirée, j'ai continué à m'engager à distance, tout ça. Donc, très prenant, très, voilà, très prenant, très difficile, mais en même temps très exaltant. Et puis, à un moment, j'ai décidé de me retirer complètement, dans la mesure où, bon, voilà, je pense que c'était important que moi, que j'aie mes propres engagements dans le lieu où je vivais aussi. Donc, pendant très longtemps, j'avais à l'esprit de rentrer, c'était imminent dans mon esprit, dans ma tête. Ça avait donc beaucoup de sens que je m'engage. Je suis très heureuse de l'avoir fait parce que ça m'a permis aussi de comprendre énormément de choses sur la Guyane, de me rapprocher de beaucoup de gens, d'aller à la rencontre de nombreuses personnes sur le territoire. Pas assez, malheureusement, mais quand même. Oui, il y a déjà quelques années, je me suis mise en retrait. Donc, je suis encore l'actualité guyanaise parce que la Guyane fait partie de moi. Je continue à rentrer chez moi dès que je peux, mais mon engagement, il est ici,
Donc
au Québec.
clairement, aujourd'hui, sur le plan politique, vous n'avez plus d'ambition en Guyane.
Je n'ai jamais eu d'ambition personnelle politique en Guyane. Je je nourrissais une ambition collective et je la nourris toujours. Mon indignation face à certaines injustices qui se produisent en Guyane ou ailleurs d'ailleurs continue. J'ai pas l'intention du tout de calmer ça. Au contraire, c'est un moteur dans tout ce que je fais. Et donc, évidemment, qu'il y a énormément de choses qui m'indignent ou au contraire, qui m'emballe sur la Guyane quand je vois ce qui se passe, quand je vois aussi la nouvelle génération de jeunes qui entreprennent toutes sortes, dans toutes sortes de domaines. Ça me parle, ça vient me chercher, ça me rend fière, ça me... Voilà. Mais c'est vrai que sur le plan de l'implication dans une organisation politique, c'est derrière moi. Bon, après, je veux dire, ça peut revenir, hein. J'ai pas demandé d'autorisation à quiconque pour m'engager quand je me sens interpellée ou je le souhaite. Donc, bon, je suis pas en train de dire que Maupati, ah ouais. Donc, si je veux revenir, je reviens. Mais ça fait quelques années que j'ai choisi de m'engager plutôt au Québec.
Oui, alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites concrètement au Québec dans cette implication, quelles sont les actions que vous menez?
Oui, alors ma première implication a été dans un organisme de défense des droits des jeunes travailleurs et travailleuses et de défense de l'équité intergénérationnelle dans les politiques publiques au Québec. Donc ça s'appelle Force Jeunesse et puis je me suis engagée dans cet organisme-là pendant 4 ans, dont 2 à titre de présidente. C'est un organisme en fait qui cherche à améliorer les politiques publiques. Donc c'était très formateur. Et puis bon bah je suis plus la jeune que j'étais. Donc le milieu jeunesse je l'ai quitté. Et là en ce moment par exemple je suis impliquée sur différents conseils d'administration d'organismes dont certains font de l'économie sociale et solidaire, il y en a un qui fait de l'économie sociale et solidaire, il y en a un qui fait de l'accès à la justice, donc qui s'appelle Juripop. Je suis aussi sur un organisme qui rassemble des acteurs, des entreprises collectives et des chercheurs et chercheuses. Donc c'est essentiellement ça. Aujourd'hui, c'est sûr que mon engagement, il est davantage à titre de, avec ma casquette de chercheuse, de chercheuse engagée. Mais avec toujours cette préoccupation-là d'amélioration des politiques publiques et de progrès social. Et puis je travaille aussi sur l'économie qu'on appelle l'économie de plateforme, l'économie du partage. Voilà.
D'accord. Doliroué Delannon, vous parliez de jeunesse, vous parliez également de rapport de force au cours de cet entretien. J'aimerais connaître votre regard sur les groupes de citoyens qui se forment en Guyane, des collectifs qui se montent, qui bloquent des routes à travers des actions, qui mettent des blocages, qui souhaitent avoir un autre rapport avec la France, avec les représentants dans le département. Est-ce que vous pensez que ces méthodes-là sont efficaces et qu'elles peuvent déboucher sur des solutions pérennes pour le territoire?
Alors, j'aimerais commencer par répondre à cette question en disant que, de manière générale, et là, c'est une posture que j'adopte, cela fait 25 ans que j'ai quitté la Guyane. J'ai été très engagée pendant longtemps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc, je suis l'actualité avec beaucoup d'attention. Néanmoins, le fait que je sois à l'extérieur... me conduit à avoir beaucoup de modestie et de réserve dans la façon dont je juge de ce qui se passe sur le terrain. Parce que c'est un fait que je ne suis pas sur le terrain. Ceci étant dit, je vais répondre à votre question, mais je tenais quand même à dire cela. Une chose est sûre, c'est que quand on est sur un territoire, comme celui de la Guyane, sur lequel il y a autant d'injustices, autant d'anomalies historiques, que l'on est dans des rapports qui ne sont pas des rapports dignes de notre temps avec les autorités françaises. Il n'est pas étonnant qu'au bout d'un moment, il y ait une exaspération qui arrive à un niveau où les gens décident de se mettre en action de façon, on va dire, je ne vais pas dire radicale parce que le mot radical est galvaudé, mais en tout cas dans des actions qui ne relèvent pas du cours habituel des choses, on va dire ça comme ça. Donc il ne faut pas s'en étonner. Maintenant, est-ce que les actions qui sont menées me semblent efficaces ou prometteuses? Ça dépend desquelles, pas toujours, bien honnêtement. Je vous dirais que ce ne sont certainement pas celles que moi j'aurais privilégiées. Mais encore une fois, on a des rôles différents dans la société. Moi, mon rôle dans la société, c'est de réfléchir, c'est de prendre de la distance. Je suis une chercheuse, c'est de prendre de la hauteur, d'analyser, de comparer, de fournir des données, de nourrir la réflexion et l'action. Certaines personnes ont d'autres modes d'action, d'autres répertoires d'action. Si cela leur appartient, une chose est sûre, c'est que le point de départ, c'est la situation profondément anormale d'un territoire comme la Guyane, depuis beaucoup trop longtemps, un territoire sur lequel il y a eu des luttes, d'abord indépendantes, anticoloniales, ensuite des luttes qui ont eu un autre visage parce que effectivement le monde a changé et que je pense que les aspirations, l'époque du nationalisme et de l'indépendantisme, en tout cas de ces mouvements-là progressistes, est un peu derrière nous malheureusement. Malheureusement en tout cas, bon bref, mais c'est un peu derrière nous, donc je crois que les luttes d'aujourd'hui sont d'une autre nature. Il demeure quand même que quand une situation est intenable, et je crois que c'est le cas en Guyane, elle est intenable, malheureusement, ça explose. Et ça n'explose jamais comme on le souhaite, ça n'explose jamais comme on aimerait que ça explose, parce que c'est l'explosion. Et puis on n'a pas toujours les leaders que l'on souhaite, on n'a pas toujours les figures de proue que l'on souhaite. Et en même temps, ben, quand il y a des gens qui prennent la parole, eh bien, il faut à minima écouter. Et donc moi, je me mets quand même une certaine limite dans le jugement que je peux porter sur ce qui se passe. Parce que encore une fois, je vois un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sur le terrain, je ne vois pas. Donc je vais m'en tenir à cela.
Cela dit, ces leaders et ces élus sont choisis par la population. Alors, est-ce que...
Oui, ben, je ne sais pas. J'ai parlé de leader, j'ai pas parlé de personne en particulier. Je parle de leader, de leader au sens de personnes qui sont à la proue.
D'accord.
De différents mouvements.
Okay.
Bon, alors après, je veux dire, qu'on les a choisis ou pas, je veux dire, ça se discute, mais je ne parle de personne en particulier.
D'accord.
Je dis simplement que, voilà, on peut avoir des désaccords, mais la réalité, moi, ce qui moi m'intéresse, ce sur quoi je veux réagir, c'est sur le contexte qui est explosif depuis trop longtemps.
Ouais.
Voilà.
Alors, on a compris que vous souhaitiez plus vous engager dans la vie politique en Guyane, donc au moins les choses sont claires. Néanmoins, est-ce que vous laissez de la place pour des coopérations sur le plan universitaire, par exemple, avec l'Université de Guyane ou d'autres structures localement ?
Absolument. Je ne me sens en aucun cas désengagée vis-à-vis de la Guyane. Pas du tout. Ce que je disais, c'est que vous m'avez parlé de mon implication à Wallowari. Je dis, bon, voilà, ça, c'était une époque. Et puis, je n'y suis plus aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que je suis désengagée vis-à-vis de la Guyane. Au contraire. Et puis, effectivement, j'ai envie de continuer à réfléchir à d'autres façons de m'impliquer, de contribuer. C'est pour ça que, quand vous m'avez contacté pour cette entrevue, j'ai accepté sans hésiter parce que mon cœur est encore en Guyane aussi. Donc, absolument.
Vous avez.
Et puis, je vous le disais avant notre entrevue, j'ai travaillé très récemment sur un chapitre de livre sur l'entrepreneuriat en Guyane pour un livre qui, donc en anglais, hein, qui sur l'entrepreneuriat en Amérique latine. Et donc, j'ai tenu à associer, donc j'ai été invitée à écrire ce chapitre, mais j'ai tenu à associer des Guyanaises, de femmes guyanaises pour. Coécrire ce chapitre parce que c'était important pour moi qu'il y ait des personnes qui sont sur le terrain,
Très bien. Une question peut-être
dont Mariana Royer
Ah oui,
et
que l'on connaît bien, oui, effectivement.
que les auditeurs connaissent bien.
Tout à fait.
Voilà.
Et puis pour finir, une question peut-être d'ordre peut-être plus personnel. Est-ce que vous avez la nationalité canadienne, Nolliway Delannon?
Oui.
D'accord.
Oui, monsieur plaisir.
D'accord. Très bien. Bon, cela montre à quel point vous êtes intégré en Amérique du Nord et plus précisément au Canada.
Oui, et puis je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est tellement. Les gens circulent beaucoup, enfin, malheureusement pas tout le monde, hein, parce qu'il y a énormément d'injustices sur la capacité des gens à circuler. Il y a encore beaucoup de passeports qui ne permettent pas d'aller partout, des conditions économiques, sociales qui ne permettent pas aux gens de circuler de manière régulière et d'être accueillis comme moi j'ai pu l'être. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens circulent, ils s'installent quelque part. Voilà, je me suis mariée ici, j'ai mon enfant qui est né ici, donc ça crée des appartenances multiples. Des identités composites. Et puis en même temps, la Guyane est un territoire qui s'est construit autour d'identités composites, avec des gens qui sont arrivés par la force pour beaucoup, et puis des gens qui ont choisi de s'installer par la suite. Mais s'il y a bien des territoires où on sait ce que c'est que de se reconstruire, de se réinventer, de faire société ensemble, ce sont bien les sociétés caribéennes et sociétés créoles.
Quel est votre message à la jeunesse guyanaise, Nolliway Delannon?
Mon message. Le premier, c'est que c'est une. J'ai envie de lui dire croire en elle parce que on a une sacrée longueur d'avance sur beaucoup de sociétés pour ce qui est de notre capacité, notre résilience déjà, notre capacité collective à survivre au pire d'abord, parce que historiquement l'histoire d'un territoire comme celui de la Guyane, c'est quand même l'esclavage, c'est quand même une situation coloniale ensuite, c'est ensuite des rapports de force très inégaux, structurellement inégaux. Et puis, c'est beaucoup de débrouilles, débrouillardises, beaucoup de réinvention de ce qu'on peut faire sans moyens, sans ressources. C'est aussi une société où des gens sont venus de partout dans le monde, continuent à venir de partout dans le monde, avec tous les soubresauts, mais avec une capacité phénoménale, phénoménale à se réinventer. Et à survivre tout simplement, à vivre. Et ça, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de sociétés où on est capable collectivement de faire face à tout cela et de continuer à vivre, à créer de la culture, à réinventer même sa langue, hein, ça, c'est, à réinventer ses codes, à être ouvert sur le monde, à être capable d'accueillir. Alors évidemment, pas de manière parfaite, mais c'est ça aussi les défis. Alors oui, à la société guyanaise et à la jeunesse en particulier, j'ai envie de lui dire, après tout ce que on a vécu et qu'on continue de vivre, sky's the limit, comme diraient les Anglo-Saxons là, mais je veux dire, on n'y a pas fait nous paix, vraiment.
C'est un peuple résilient et au niveau de la Caraïbe, on peut dire que ce sont des peuples résilients. Merci beaucoup.
Absolument, de toute la Caraïbe.
Tout à fait. Merci beaucoup, Nolliway Delannon, de nous avoir accordé Cet entretien qui est à retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux en vidéo, Facebook, Twitter, Instagram, également la chaîne YouTube de Radio Mayori Campus et en FM sur Saint-Laurent sur 89.2 et Saint-Laurent et Cayenne 107.6. Je vous dis à bientôt et bonne continuation.
Merci beaucoup, Monsieur Plaisir.
Au revoir.